J'aimerais aborder un sujet ce matin qui, je trouve, est bien sûr très important, mais difficile à aborder, même si en fait c'est simple. Je vous embrouille. C'est mieux, mais... Déjà que ce n'était pas simple, je commence mal, hein. Très mauvaise introduction. Non. Mais parce que c'est un domaine où on a beaucoup de fausses idées, et puis aussi c'est pas quelque chose qui est dans le domaine du visible, donc c'est toujours beaucoup plus difficile que de parler des comportements ou des choses à faire ou pas à faire. Mais vous vous rappelez, pour certains, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, j'avais parlé de Josué et de Caleb, ces deux hommes qui avaient eu une vision différente des autres, hein. Il y en a toute une tribu d'espions là qui part espionner la terre promise. Ils reviennent tous, ils ont vu, en tout cas avec leurs yeux naturels, la même chose. Puis il y en a 10 qui disent impossible. Ouais, c'est super, le pays est beau, mais c'est trop difficile pour nous. Et puis il y en a 2 qui disent bah oui, effectivement, c'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, c'est faisable, on va y aller. Hein, et puis vous connaissez toute l'histoire. Et je pensais à ça, et puis je me disais. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie je suis l'un ou l'autre? Parce que aucun d'entre nous est tout le temps Josué ou Caleb ou tout le temps les autres, hein. On a des moments, des situations, et ça peut varier même dans une journée plusieurs fois, où on a le regard de Josué et Caleb, si on pense que c'est possible, même si c'est difficile, et que Dieu peut nous aider et qu'on peut y arriver. Et puis il y a tous ces moments où on n'a pas le choix. C'est pas une question juste de dire, allez, faut y croire, hein, un peu de positivisme et puis on va y arriver. On voit qu'on va pas y arriver et puis on n'en est pas capable, et c'est vrai, hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux moments? Moi, je crois pas juste au pouvoir de la discipline pour la discipline. Ouais, si on travaille, si on le fait, si on y croit, si on ne s'écoute pas, on va y arriver. Non, ça marche pas, hein. D'abord, pour la plupart, c'est pas accessible, et pour les quelques-uns qui ont le temps apparemment pour le faire, ça n'a pas de valeur. C'est juste un effort, et puis c'est en général des gens pas très agréables, les gens qui y arrivent, eux, parce qu'ils se bougent et qu'ils s'écoutent pas, hein. C'est pas le genre que vous avez envie de rencontrer quand vous allez pas très bien, quoi. Donc c'est pas du tout ça la solution. Et puis je réfléchissais encore, mais alors, comment on fait? C'est bien beau de dire il faut, mais on fait quoi, hein? Et puis surtout, je fais quoi? Et en relisant ces textes, en réfléchissant, en voyant beaucoup d'autres choses, il y a une chose qui est dit de ces deux personnages et qui est dit de plein d'autres à travers la Bible. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, toi, pourquoi je disais c'est un sujet qui est difficile? Parce que déjà, on a plein d'a priori, hein. Quand on me dit le mot Saint-Esprit, déjà, il y en a plein qui pensent, ah, c'est, je dirais pas le nom, mais une certaine dénomination, comme s'ils avaient le privilège ou l'exclusivité. Ou alors, pour d'autres, on pense, ah, on va encore nous parler de trucs émotionnels, de se rouler par terre, lever les mains en aboyant, ou je sais pas, des trucs bizarres. Mais on peut pas enlever cette chose-là de la parole de Dieu, parce que je dirais c'est au centre de tout, hein. Genèse, dès le commencement, hein, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis on voit que chaque fois que Dieu a voulu utiliser un homme dans l'Ancien Testament, alors c'était pas comme pour aujourd'hui, il a dû le remplir du Saint-Esprit pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire. Et puis Jésus lui-même, en tant qu'être humain, parce qu'il était Dieu, il était homme, l'Évangile nous rapporte que après le baptême de Jean, il a été rempli du Saint-Esprit. Donc c'est pas le fait qu'avant il connaissait pas Dieu, qu'il savait pas ce que c'était le Saint-Esprit, ou qu'il n'était pas en communion avec lui, mais pour une tâche particulière que Dieu nous confie, nous avons besoin de cette force, de cette puissance, de cette vie de... C'est difficile à formuler avec des mots, hein. Il y a ce mot qui est utilisé, de l'Esprit de Dieu qui soit en nous, hein. Et depuis la Pentecôte où l'Église a commencé, hein, celle où les disciples étaient dans la chambre haute, ils priaient, ils savaient pas ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qui va se passer? Jésus est mort, il est ressuscité, maintenant ça fait longtemps, il est parti, on attend, on ne sait pas quoi. Ça n'avait pas été simple comme situation, hein. Mais ils étaient persévérants à ce niveau-là, ils se retrouvaient tous les jours ensemble pour prier. Et puis, il y a cette fameuse Pentecôte où le Saint-Esprit vient et puis les visite et les remplit chacun d'entre eux. Et c'est pas une expérience unique, puisqu'on voit que régulièrement dans le livre des Actes, en parlant des mêmes personnes, il est dit, ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et puis, ils allaient, ils témoignaient. Et puis, on les menaçait, on leur disait, attention, si vous parlez encore de ce Jésus, on vous coupe la tête ou on vous met en prison. Enfin, d'abord, on vous met en prison, après, on vous coupe la tête. Il y a un ordre toujours. Et puis ils disaient, faites ce que vous voulez, mais nous, on va continuer. Ils avaient quand même peur, parce qu'ils étaient humains comme nous. Ils se retrouvaient, ils priaient ensemble, il y a plusieurs reprises, ils ont dit, hein. Et ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils repartaient témoigner. Et effectivement, certains y ont laissé leur tête, beaucoup y ont laissé leur maison, leurs amis, ils ont dû fuir, partir, vivre autre chose, une aventure avec Dieu plus loin. Et c'est pas quelque chose qui était réservé pour quelques fanatiques au début, ou parce que c'était une époque particulière, alors il y avait besoin de quelque chose de particulier. Toutes les époques sont particulières, et en même temps, toutes les époques se ressemblent. Quand j'écoutais Ami dans son introduction, je disais, malheureusement, c'est dramatique, c'est triste, mais il n'y a rien de nouveau. L'argent a toujours dirigé le monde. C'est de plus en plus éclatant, de plus en plus évident, de plus en plus grand dans les injustices, mais c'est pas non plus vraiment nouveau, quoi. Hein. C'est juste que, par moment, on a eu dans l'histoire l'illusion que là, on va devenir meilleur. Maintenant, on est civilisé, maintenant, on sait faire, maintenant, il existe le social, maintenant, il y a... Mais l'être humain est toujours le même. Hein. Moi d'abord, mes poches d'abord, et puis... s'il en reste un peu, le reste. Et vous allez voir que c'est intéressant, c'est lié avec notre sujet d'une certaine façon, et vous verrez pourquoi un petit peu plus tard. Donc, on a vu que tous ces personnages, et je pourrais en citer d'autres, et donc Jean-Baptiste, Marie la mère de Jésus, etc., chaque fois il est dit, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons été créés en tant qu'êtres humains, avant la chute, avec... une capacité pour rencontrer Dieu, hein, avec un espace en nous pour rencontrer Dieu. Cet espace a été, et qui était, j'allais dire, automatiquement connecté. Hein. Vous savez, c'est comme les ordinateurs modernes, vous les achetez, il y a déjà le modem à l'intérieur, vous arrivez quelque part, et puis, si le réseau n'est pas protégé, vous êtes connecté. Hein. Adam et Ève, avant la chute, c'était comme ça, c'était un ordinateur portable ou une tablette avec Wi-Fi, et puis il n'y a pas de protection sur le réseau, ils étaient en connexion avec Dieu, super, partout, tout le temps, connexion illimitée, c'était simple. Au moment où l'homme et la femme ont pris leur indépendance vis-à-vis de Dieu, parce que c'est ça, hein, ce qu'on appelle la chute, c'est la chute de l'accès direct et permanent à la présence de Dieu. L'homme est tombé de cet état-là. Mais l'emplacement est toujours resté là. Hein. Vous savez, sur les ordinateurs, quand vous avez une connexion avec une croix dessus, hein, cette connexion n'est pas valide. Vous savez pas pourquoi vous cherchez. Si vous êtes comme moi, vous ne trouverez jamais pourquoi. Il faut en ouvrir une autre souvent, parce que celle-là, on n'arrive plus rien à faire avec. Hein. C'est ce qui se passe. Mais cet espace-là qui est vide, c'est la cause de beaucoup de nos difficultés et c'est aussi la cause de notre avidité. Hein. Nous voulons remplir ce vide. Vous connaissez cette célèbre citation du philosophe Pascal qui a dit « L'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu ». Ça ne change pas quand on devient croyant. Oui, on sait quelle forme a le vide. Mais le vide est toujours là s'il n'est pas rempli. Hein. De savoir, mais de connaître Dieu, même d'avoir fait des expériences réelles avec lui, ne change pas le fait que je me lève le matin, naturellement, ce vide n'est pas rempli. Parce que sur Terre, c'est comme ça. Et c'est ce vide intérieur qui nous amène à l'avidité. Hein. Dans avidité, il y a vide. On veut remplir le vide. Hein. Pourquoi des gens qui ont de quoi vivre 300 millions d'années veulent encore gagner quelques dizaines de milliards de plus ? C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Avidité. Hein. Et puis ça, c'est facile parce que je vois de loin des gens que je connais pas. Mais pourquoi moi, j'arrive jamais à être satisfait ? Alors que j'ai déjà largement tout ce qu'il faut et que chaque fois que j'ai ce qu'il faut, je veux autre chose. Parce que ce vide au fond de moi me dicte sa loi et me dit, il te faut plus, il te faut mettre de côté, il te faut assurer tes arrières, il te faut assurer ta vieillesse. Il y a cette insatisfaction, hein. Et parce que déjà c'est naturel chez l'être humain et puis en plus nous sommes dans des sociétés qui avons développé ça comme un mode de vie, nous sommes... conduit, éduqué tout petit à surtout pas réfléchir à ça. Il faut occuper le vide. Il faut occuper. Et c'est vrai qu'on a vraiment énormément de choix aujourd'hui pour occuper le vide. Je ferai pas la liste, mais elle est longue. Et puis on est doué quand même. On a fait des trucs incroyables pour jamais réfléchir. Je me réveille avec la musique, je continue avec, j'ai internet, j'ai ça là-bas, j'ai le livre, j'ai le machin, j'ai le cinéma, j'ai les affiches, il y a du monde, il y a du bruit, ça bouge, je fais des projets, j'ai des programmes, j'ai des plannings, j'ai des activités. La plupart de ces choses-là, bien sûr, il y a des choses qu'on n'aimerait pas faire et qu'on doit faire, hein, pour certains, aller travailler ou aller étudier, etc. Mais une plus grosse partie de nos vies, c'est juste là pour pas réfléchir. Parce que si je m'arrête et que je fais rien et que je regarde les choses en face, je me dis, oups, pas facile. Je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre ne serait-ce qu'un jour ou deux pour rien faire. Partir quelque part pour rien faire. Donc ça veut dire pas de télé, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas des gens pour papoter, juste pour rien faire et pour réfléchir. D'abord, pour la plupart d'entre nous, physiquement, c'est impossible. Parce qu'il nous faudrait au moins une semaine pour se désintoxiquer de l'adrénaline qu'on a dans nos styles de vie. Donc on peut même pas s'asseoir et réfléchir, on peut pas physiquement, on est en manque, hein. On est réellement intoxiqué. Mais si on arrivait à le faire, et qu'on puisse prendre comme ça, au bout de 5 jours de désintoxication, une vraie journée, c'est difficile de faire face au vide sans utiliser aucun artifice, hein, sans le remplir par notre position, notre fonction, notre vie de travail, notre place dans la famille, dans la société, ce que les gens pensent de nous, notre image, nos activités, toutes ces choses-là qui, pour la plupart, sont pas des choses mauvaises, attention, hein. Elles sont juste mauvaises dans le sens où elles sont là pour cacher quelque chose et du coup fausser tous nos calculs, tous nos raisonnements. Et en tant que croyant, c'est tellement facile de faire la même chose, mais avec des choses qui sont, entre guillemets, bien bonnes, hein. On connaît tous des gens, on a tous eu des périodes dans nos vies où on vivait que pour ce qu'on appelle l'Église, on faisait des choses, on faisait des choses, on faisait des choses, et c'est super de faire des bonnes choses, hein. Mais souvent, derrière la motivation, c'est il faut pas que je m'arrête, il faut pas que je réfléchisse. Bon, il y a aussi un petit peu de si je fais beaucoup, Dieu sera content, hein. Ça, c'est toujours derrière, ce qui n'est pas vrai. Mais on va voir que effectivement, le but, ça serait de pouvoir être actif en permanence pour le royaume de Dieu. Mais il faut qu'on comprenne dans quel ordre fonctionnent les choses. J'expliquais ça, pas ce sujet-là, mais ce principe, dans un autre contexte, aux jeunes mardi à la JAB. Quand vous voulez cuisiner, vous allez sur Internet et vous avez deux listes sur Internet ou un livre, mais sur une recette. Il y a les ingrédients et puis les préparations. Hein. Donc les ingrédients, il faut ça, 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 ça. Et puis après, indispensable, vous avez l'autre côté qui vous dit, mélangez d'abord ça avec ça, faites monter ça, laissez reposer, rajoutez ça. Nous, le problème, c'est qu'on s'occupe que des ingrédients, on lit la liste, on met tout dans un pot et on remue. Et on n'a pas le bon résultat. Mais j'ai mis tout ce qu'il disait. Oui, non, mais il y a un ordre, hein. On met pas tout n'importe comment à n'importe quel. Alors, effectivement, que quand on regarde la Bible, on a l'impression que Dieu voudrait qu'on soit tout le temps actif pour lui et toujours content et jamais fatigué. Et puis toujours content de le servir. Puis on voit des gens qui avaient l'air de vivre ça, hein. Les disciples, là, on les fouette, on les bat, ils ont tout perdu, on se moque d'eux, ils se retrouvent, ils prient. Puis, oh, merci Seigneur, on a été digne de souffrir pour toi. Je sais pas pour vous, moi je lis ça, je me dis, ouf, soit c'est de la mythologie. Dans les deux sens du terme, hein, ils ont inventé l'histoire. Soit, je sais pas, c'est quelque chose que je connais pas. Parce que moi, ou je fais pas, ou je fais, mais quand je fais que c'est désagréable, je râle. C'est fatigant, je suis frustré, je suis amer. Pourquoi on n'est pas plus? Pourquoi il n'y a pas les autres qui m'aident? Pourquoi ci, pourquoi ça? Lorsque je fais ce constat-là, ça doit tout simplement, c'est la petite ampoule rouge qui s'allume pour me dire, tu n'es pas rempli. Tu le fais, bah tu le fais comme il y a plein de gens qui font des choses. Les gens pour les partis politiques qui passent des heures dans la rue à donner des tracts. Il y a des gens pour d'autres causes qui font autre chose. Il y en a c'est pour le sport, il y en a c'est pour la musique, il y en a c'est pour eux. Bah, toi aussi tu fais pareil, plein de choses. Mais si tu mets pas les choses dans l'ordre, ça va pas fonctionner. Parce que la vie avec Dieu, celle qu'il attend de nous, elle n'est pas possible sans le bon carburant, sans la bonne énergie. Hein. À quoi ça servirait qu'on vous offre une Jaguar? C'est une des seules voitures que je trouve belle. Une Jaguar, et il n'y a plus de carburant. Faites quoi avec? Hein. Vous pouvez toujours y atteler un âne ou un cheval, et puis vous êtes assis dans votre Jaguar, ah, c'est grisant la vitesse. Hein. Ah. Ou pire, vous n'avez pas de cheval ou d'âne, et c'est vous qui devez la tirer ou la pousser. Et là, vous dites, pourquoi on m'a pas offert une deux chevaux? Hein. C'est comme ça dans la vie chrétienne. On veut faire des choses pour Dieu, mais s'il n'y a pas l'énergie qui vient de lui, c'est une corvée. Et encore une fois, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de réflexion pour montrer quelqu'un d'autre. Hein. Mais vous savez, dans les magazines, là, j'en lis pas souvent parce que normalement, c'est, on les lit chez le coiffeur, puis j'y vais plus depuis longtemps. Mais dans ces magazines, vous avez des tests. Hein, vous pouvez cocher des croix, et à la fin, on vous dit ce que vous êtes ou ce que vous pensez. Hein. Et puis je pensais à ça ce matin, et puis je me disais, voilà, quelques questions de test que je peux me poser. Est-ce que ma vie avec Dieu en général et mon engagement sont lourds ou pesants? Vous ne me répondez pas haute voix, s'il vous plaît. Chacun fait ses croix tout seul. Est-ce que servir Dieu est fatigant? Est-ce que c'est frustrant? Est-ce que ça me laisse avec un sentiment d'amertume? Est-ce que j'ai l'impression d'en faire trop et que Dieu m'en demande toujours trop? Bon, on pourrait continuer comme ça, mais je fais bref, hein. Si c'est mon cas, alors si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, c'est la suite, hein, il est très probable que vous ayez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. D'accord ? Ok, donc on n'a toujours pas progressé, mais oui, on a progressé. Parce que la première condition pour être rempli du Saint-Esprit, c'est de savoir que j'en ai besoin. Parce que si je vis normalement, entre guillemets, pris dans mes activités, mes responsabilités, que ce soit de maman, de père, de travailleur, de ci, de ça, d'artiste, de ce que vous voulez, j'en suis pas conscient. Et puis, je mets sur le compte de mes échecs mon vide intérieur. Ouais, ben, si aujourd'hui on avait gagné le match, je serais satisfait. Ça, c'était pour qui me regarde de nouveau. Si aujourd'hui, pardon, pas gentil, hein, si aujourd'hui on avait fait passer 4 commandes de plus, alors là, je serais satisfait. Hein. Si la pièce était sortie droite, là, ça irait. Si la recette avait réussi, si mon mari était rentré de bonne humeur, si les enfants avaient arrêté de fumer, si. Hein. Et puis on a plein de choses comme ça, mais on réalise pas que, effectivement, les choses sont bonnes, mauvaises, justes, fausses, droites ou tordues, mais le problème est pas là. Le problème n'est pas là, parce que le jour où ces choses-là, ça arrive une fois tous les 30 ans, hein, mais le jour où ces choses-là vont toutes bien pendant une journée, je ne suis pas forcément mieux à la fin de la journée. Donc il y a autre chose, et je dois le savoir, le reconnaître et l'accepter. Point de départ, hein, faire face au vide, sans artifice, c'est le plus difficile, je trouve. Parce qu'on a toujours trop envie de faire quelque chose pour... Hein. Et puis, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Et là, je voudrais vous lire un texte biblique qui va nous conduire dans la suite. Éphésiens 5, 15, à partir de 15. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Veillez avec soin à votre manière de vivre. Ça veut dire, je dois vivre ma vie, on entend souvent cette phrase, hein. Je ne dois pas la subir. Je dois décider. Je dois penser, je dois savoir, je dois vouloir, je dois avoir des buts précis. Et là, je ne parle pas de buts à atteindre dans des choses à faire. Hein. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est ça, veiller avec soin à votre manière de vivre. Ça ne veut pas dire, attention, mettez pas les coudes sur la table, pas les doigts dans le nez, dites bonjour à la dame, n'oubliez pas de dire merci, fermez la porte. Non, veiller à votre manière de vivre, ça veut dire, vivez intentionnellement. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous occupez vos vies? À quoi vous pensez? Comment vous pensez de vous-même? Qu'est-ce que vous... C'est à moi de... Je ne dois pas juste me lever, me laisser emporter par ma vie. Je suis aspiré toute la journée jusqu'au soir où je tombe cuit sur mon lit comme une masse et je me réveille le matin, le café, et je suis emporté par ma vie. Et une fois tous les 10 ans, de temps en temps, je réfléchis un petit peu, mais ça me fait tellement peur que je cours de nouveau. Et j'arrive à un âge avancé, et là j'ai plus le choix parce que je peux plus bouger, je suis assis sur mon fauteuil, et je suis obligé de réfléchir, et c'est dramatique. Je me dis, j'ai pas vécu. Je me suis laissé aspirer d'un jour à l'autre sans rien faire. Donc, veillez à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Et là, Paul utilise deux mots qu'il a tirés de la philosophie grecque, et il avait une formation classique à ce niveau-là aussi, hein. Les fous et les sages, c'est pas les gens qui sont dans des institutions psychiatriques et les autres, ceux qui ont fait des études. Le sage, c'est celui qui a l'art de vivre sa vie comme il faut. Et le sage, dans la parole de Dieu, c'est celui qui va vivre sa vie selon la pensée de Dieu. Tout simplement parce que c'est lui le fabricant. L'intelligence, que je n'ai jamais, quand vous utilisez une nouvelle machine, un nouvel appareil, un nouvel outil, c'est de lire le mode d'emploi. Moi, j'ai jamais su faire, j'y arrive pas. Je prends le mode d'emploi que quand j'ai cassé la machine. Ah, il fallait d'abord mettre de l'huile. D'accord. Ah, il fallait mettre. Hein. Mais on fait tout ça avec nos vies. Donc, être sage, c'est avoir la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle est dans le manuel du fabricant. C'est penser avec lui et comme lui. Ensuite, verset 16. Mettez à profit les occasions qui se présentent. Les traductions anciennes, plus littérales, disaient « rachetez le temps ». Ça veut dire quoi ? Ben, comme je l'ai dit, nos journées, et c'est pas nouveau, c'était pareil à l'époque de Paul, c'était pareil tout le temps, ça sera bien. Elles sont ouf, c'est la fin de la journée. Ouf, c'est la fin de la semaine. Ouf, c'est la fin de l'année. Hein ? Il y a que quand on est coincé sur un lit d'hôpital ou des fois au cimetière en entendant un message parce que quelqu'un est parti, qu'on s'arrête un tout petit peu pour réfléchir. Mais de suite, on est de nouveau emporté. Racheter le temps. Le temps passe, on en a une quantité limitée. Qu'est-ce que je fais avec ? Car les jours sont mauvais. Et le mot pour mauvais veut dire méchant. C'est pas juste mauvais parce que la bourse va pas bien, ou parce qu'il pleut, ou parce que mes voisins sont désagréables. Le monde dans lequel on vit, qui est fait par nous, hein, mais il est méchant. Il veut pas mon bien. Il veut pas que j'aille mieux. Parce que, imaginez, on vit dans un monde, je ne sais pas combien il y a de milliards d'êtres humains sur la planète, mais où tout le monde veut que tout aille bien pour lui. Multipliez ça par le nombre d'individus et vous imaginez le complexe d'égoïsme que ça fait avec chacun qui vit que pour lui. C'est terrible. Le monde est mauvais. Et puis il y a le diable derrière en plus, hein. Comme si ça ne suffisait pas. Hein. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, littéralement. Ne soyez pas sans penser. C'est pas une question raisonnable, encore une fois. Faire ça, c'est raisonnable. Ça, c'est pas raisonnable. Non, non. Ne soyez pas sans réflexion, sans réfléchir. Et vous voyez comment on est loin du cliché où le Saint-Esprit, c'est un truc émotionnel où il faut pas réfléchir. Au contraire, depuis le début, tout ce passage nous dit, oh, il marche bien ou moins bien, il est petit ou pas, mais je vous ai donné un cerveau pour réfléchir, pour penser, pour voir, pour analyser, pour utilisez-le, pas juste pour compter les sous, ou pour faire la liste des commissions, ou pour retenir l'ordre sur la playlist, ou pour... Non, utilisez-le pour penser aux choses qui sont importantes, intelligentes, selon la pensée de Dieu, hein, les vraies valeurs. Donc, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez, donc toujours, hein, ce que le Seigneur attend de vous. Et c'est là où c'est important ce qu'on disait tout à l'heure, dans quel ordre il faut faire les choses. Oui, Dieu veut qu'on le serve, oui, on devrait être actif du matin au soir, et même sans être fatigué, ou si on est fatigué, on dort, puis on se réveille, mais sans être frustré, amer, découragé, mais comprenez comment ça se passe. Il ne faut pas faire des choses pour que Dieu soit content, il ne faut pas faire des choses pour s'occuper, il faut faire ce qu'il faut pour que Dieu nous remplisse et que nous ayons sa pensée, et le reste va se faire tout seul. Parce que si vous avez déjà la Jaguar et que vous trouvez le carburant et que vous savez où on met la clé, se déplacer, c'est pas désagréable. Il y a même du plaisir dedans. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Verset suivant. Ne vous enivrez pas de vin, ça vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Et c'est pas un passage qui parle simplement contre l'alcool. Évidemment que l'alcool, c'était l'exemple le plus simple et culturellement le plus abordable. Alors c'est sûr que l'alcool, c'est une saleté, ça sert pas à grand chose, ça détruit beaucoup. La Bible n'interdit pas d'en boire raisonnablement, mais dans l'ensemble, ça sert à rien et ça fait mal. Mais l'idée qu'il y a derrière, là, c'est l'ivresse. Or, l'ivresse, ça veut dire quoi, hein ? Perdre le sens de la réalité. Et l'ivresse, on l'atteint par des milliers de moyens. Évidemment, l'alcool, ça en fait partie. Et toutes les autres substances qu'on peut y ajouter. Mais si je dois avoir ma télé qui marche 18 heures par jour pour pas réfléchir, c'est aussi de l'ivresse. Si j'ai besoin de faire du sport 15 heures par jour pour pas réfléchir, c'est aussi de l'ivresse. Si j'ai besoin de multiplier les conquêtes masculines ou féminines pour pas réfléchir, c'est aussi de l'ivresse. Si j'ai besoin de toujours travailler plus, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas que l'alcool, évidemment qu'il y a l'alcool, c'est facile, quoi. Mais il y a tout le reste, tout ce qui fait que je ne suis pas avec les pensées claires pour contrôler, décider ce que je veux faire avec ma vie. Mais, en opposition à ça, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Et c'est là où on voulait en arriver. Pour être rempli du Saint-Esprit, je dois être conscient qu'il y a un vide. Je dois désirer que Dieu le remplisse et je dois refuser les solutions de substitution. Genre, j'ai mal à la tête, je prends de l'aspirine. Non, tu as mal à la tête, tant pis, supporte ton mal à la tête. Pourquoi tu as mal à la tête? Est-ce que tu bois assez? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bouges assez? Est-ce que tu as une maladie? Ouais, mais c'est plus simple de prendre de l'aspirine et je peux continuer de vivre. Mais ça, c'est de la substitution. Arrête-toi. Et je prends de l'aspirine quand j'ai mal à la tête, c'est pas le sujet. Mais... Non, non, pas d'ivresse. Mais par contre, voilà, faire face pour dire à Dieu, Seigneur, ah, c'est pas possible. Il faut que tu me remplisses. Et il faut savoir que Dieu veut nous remplir. C'est pas un jeu où on doit persuader Dieu de faire quelque chose qu'il veut pas. Vous savez, genre, il y aurait Dieu qui dirait, moi, je sais ce qui est bien pour eux, là. Je pourrais leur donner mon esprit. Ça leur ferait super du bien. Mais j'ai pas envie. Qui va arriver à me convaincre? Alors, on commence les enchères. Vous, oui, madame, bravo. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup d'œuvres, vous êtes gentil, vous allez à l'église. C'est pas assez, je vous en donne pas. Et vous, monsieur? Non. Dieu veut nous remplir parce qu'on a été créé pour ça. Au début, c'était naturel. La connexion était tout le temps là. Maintenant, ça l'est plus. Mais c'est pas de son côté qu'il y a un problème. Rien a changé pour lui. C'est du nôtre. C'est nous qui avons interrompu la connexion. Donc, si on se tourne vers lui, qu'on demande, qu'on veut, je vous dis pas, c'est pas un truc comme ça, c'est pas une recette, c'est pas quelque chose qui, Seigneur, remplis-moi pour ça. Non. Mais si j'accepte le processus qu'il a voulu, penser, prendre le contrôle de ma vie, refuser des substituts, refuser toutes sortes d'ivresses, et prendre le temps, et il n'y a pas de raccourci. Prendre le temps, dire à Dieu maintenant, hein, comme plein d'hommes de Dieu l'ont fait dans la Bible, je bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu m'aies béni. Hein, on entend ça. Hein. Je vais pas y aller si tu ne remplis pas, si tu touches pas mon cœur. Et puis, on va rentrer dans un dialogue avec lui, on va se disputer, peut-être on va dire qu'on n'est pas d'accord, que ça va pas, qu'on n'est pas content avec la vie qu'il nous a donnée. Ça, on a le droit. Ça, c'est pas un problème. Au contraire, c'est par là que ça passe. Par ce conflit, comme cette lutte de Jacob avec l'ange qui là, non, je veux pas que tu ne pars pas. Et puis on va peut-être se faire démonter la hanche comme Jacob dans l'histoire, hein, parce qu'on va s'apercevoir, oh mais, ouf, il y a ça en moi, ouf, il y a ça, c'est pas bien, ouf, il y a ça. Mais lorsque Dieu nous remplit, finalement, que ça se passe, hein, alors les choses sont simples. Parce que j'ai plus besoin de rien, je suis rempli, je suis satisfait. Ça va pas durer, hein, mais dans le moment, je peux enfin servir comme il faut. Pourquoi? Parce que je fais plus rien pour moi. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je peux enfin penser aux autres réellement. Je peux enfin penser au royaume de Dieu normalement. Pas avec, ah, oh, je me sacrifie pour lui, c'est dur, mais je le fais. Ah, oh, j'ai souffert, Seigneur, tu es content. Dieu dit, ça me fait pas plaisir. C'est sûr que ça me fasse que tu souffres. Si ça pouvait réjouir Dieu que ses enfants souffrent. Par contre, s'il faut supporter une souffrance, jusqu'à ceux qui me remplissent. Alors oui, mais vous voyez pourquoi l'ordre des ingrédients est important? On mélange tout. Si je souffre, Dieu est content. Non. Mais peut-être pour suivre le chemin que Dieu m'a demandé, je vais souffrir. Mais c'est pas pareil. Je souffre pas pour lui faire plaisir. Je souffre parce que si je prenais de l'aspirine, ça irait plus vite. Et je veux pas d'aspirine. Je veux plus avoir mal à la tête pour une vraie raison. Alors je vais rester avec ma migraine parce qu'il faut que j'élimine mes toxines. Un jour, deux jours. Et puis là, je rencontre Dieu et il me remplit. Et là, enfin, j'ai plus d'ennemis, j'ai plus de concurrents, j'ai plus rien à prendre. Pour moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis riche, satisfait. Et là, je peux faire quelque chose. Bon, ne pas faire quelque chose, mais s'il y a quelque chose à faire. Et à la fin, lorsque je l'aurai fait, je ne serai pas... Ben, je ne referai plus, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était dur, ils m'ont fatigué, ils m'ont tous gonflé, ils m'ont ennuyé. Non, je suis épuisé. Et je vous dis ça, ça m'arrive tout le temps, hein. Je suis pas en train de vous dire que je sais le faire autrement. Mais j'ai vécu aussi des moments où c'était pas comme ça, ponctuellement. Et c'est ce qu'on veut. Parce que si on veut que les choses changent, il faut le faire avec la force de Dieu. Ou alors, bah, c'est un club de gens qui ont des idées sympathiques, et puis on essaie de faire le mieux qu'on peut chacun, et puis ça va bien. Hein. Mais pour aller plus loin avec lui, c'est comme ça que ça va se faire. Alors, je vais pas faire plus long, mais juste pensez à ça, et je voudrais vous lancer ça comme un défi. Hein. Prenez le temps de réfléchir à prendre vos vies en main. Encore une fois, pas discipline, moi, je... Non, d'aller devant Dieu et dire, bon... Hein. Déjà, j'ai besoin de toi pour m'aider à supporter de rien faire, d'accepter ce vide et de me voir dans le miroir. et puis de prendre le temps de m'approcher de toi. Et si ça prend un jour, c'est bien. Si ça en prend trois, c'est comme ça. Et si ça prend 6 mois, c'est 6 mois. Et si ça prend 2 ans, c'est pas grave. Mais je veux pas autre chose. Je veux plus d'imitation, de contrefaçon. Je veux le vrai. Je veux toi. Et pas un semblant de parce que j'ai fait, puis je me sens pas trop mal et je repars. Et c'est pas du tout facile, c'est jamais gagné, c'est toujours à refaire. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est bien? C'est libérateur. Et c'est la seule façon qu'on ne soit pas corrompu par la fonction ou par le pouvoir. Pourquoi tous les gens qui ont l'air super, quand ils sont en position, ils sont pourris comme les autres? Sans exception, toujours. Parce qu'ils n'ont pas réglé cette chose-là. Donc forcément, dès que j'ai les moyens de satisfaire rapidement et sans effort le vide qui est en moi, parce que plein de choses sont à ma disposition, je le fais. Et on est tous pareils, on ferait tous pareil. Mais lorsque je suis déjà satisfait, rassasié par le Saint-Esprit en moi, je peux ne plus abuser des choses. J'en ai pas besoin, j'ai déjà ce qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la différence dans un fonctionnement où tout le monde vit que pour lui, et moi aussi. Mais quand je vis comme ça, c'est différent. Et c'est ce qui a fait que l'Évangile a bouleversé le monde connu de l'époque en une génération, avec ces gens-là qui n'étaient pas meilleurs que nous, hein. Parce qu'ils ont vécu ces choses-là, et ils les ont désirées, et ils les ont cherchées. Alors je vous encourage, et je m'encourage à désirer ces choses-là, peut-être en parler entre nous, peut-être on peut dire, ben moi j'y arrive pas tout seul, puis avec les vies, la géographie, c'est difficile de dire, tiens, ben on va se retrouver tous les matins à 5h ce qu'ils veulent pour prier pour ça, mais peut-être je peux le faire avec mon conjoint, avec mon voisin, avec un ami, à 2 ou 3, avec certains selon nos affinités, c'est pas un problème, notre temps, notre emploi du temps, mais cherchons et désirons ça parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Seigneur, nous te demandons de nous aider, tu vois à quel point souvent c'est compliqué d'essayer de prendre nos vies en main, c'est décourageant, on n'y arrive pas. Et plus on a envie de le faire et moins on le fait. Alors on te demande de venir à notre secours. Aide-nous à nous arrêter, à prendre le temps, à avoir les pensées claires pour faire face au vide qui est en nous et nous tourner vers toi pour que tu le remplisses. Avec ton amour, avec ta vie, avec tes pensées, avec tout ce que tu es, avec ta personne. Et que tout ce que nous puissions faire, tout notre engagement, toutes nos actions, tous nos services, ou toute notre inaction, soit rempli de toi, Seigneur, de cette vie qui fait que nous désirons rien d'autre, nous sommes satisfaits, rassasiés. Merci de nous permettre de le vivre les uns les autres, de nous y encourager, et de le vivre ensemble aussi en tant qu'assemblée locale. Merci pour cette journée, remplie-la de ta présence. Amen.